Soyez les bienvenus entre 8h30 et 9h, ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui avec Elisabeth de Courrèges, qui est ergothérapeute. Bonjour.
Bonjour.
Alors quelques mots peut-être sur votre métier, en quoi consiste-t-il ?
C'est un métier donc du paramédical qui vise à aider les personnes qui se trouvent en situation de handicap, donc moi plutôt des personnes âgées handicapées, à pouvoir conserver une certaine autonomie. Je veille à leur installation, à leur positionnement, et puis à toute une activité un petit peu d'entretien, des fonctions cognitives, de l'équilibre. C'est vraiment un travail en fait d'accompagnement du quotidien, toujours dans une vision un peu globale de la personne, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est pas seulement qu'elle puisse à nouveau lever les bras, mais qu'elle puisse prendre ses petits-enfants dans ses bras. Donc voilà, on considère la personne avec son environnement physique, mais aussi humain.
Et vous avez passé un master en éthique médicale comme complément à ce métier qui est le vôtre ?
En fait, j'ai effectué des stages dans des lieux qui ont fait émaner en moi beaucoup de questions éthiques parce que j'ai été dans des unités de soins palliatifs ou des unités qui accueillent des personnes en état végétatif chronique ou état post-relationnel. Donc on est vraiment dans de la grande, grande dépendance. Et donc ont émané des questionnements et j'ai voulu du coup poursuivre mes études dans un master. Donc on avait des cours de philosophie, d'anthropologie et puis des cours un peu plus axés sur des problématiques liées à la maladie d'Alzheimer, liées à la maladie de Charcot, enfin voilà, des maladies qui peuvent soulever en nous des interrogations, des conflits. C'était très intéressant parce que j'étais avec d'autres médecins, des infirmières, des sages-femmes qui eux travaillaient parfois depuis longtemps alors que moi je venais à peine de terminer mes études. Donc je dirais que le partage entre nous était presque aussi riche que les enseignements reçus.
Vous prenez soin du corps et vous appartenez à ce corps médical. Mm-hmm. Une belle complicité, complémentarité à travers ces différentes missions, ces différentes compétences que peuvent avoir les médecins, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes.
Oui, tout à fait. Je crois beaucoup à la multiplicité des regards qui permettent d'aborder, d'approcher cette réalité si complexe qu'est la personne humaine, si mystérieuse. Et même à nous tous, on ne cerne jamais complètement ce mystère. Mais voilà, en multipliant un peu les regards, les approches, les sensibilités et puis les histoires, on essaie un petit peu de doucement, prudemment, mais de se rapprocher de cette réalité qu'est la personne et de mieux la comprendre pour mieux l'accompagner.
Alors comment avoir cette compassion et en même temps prendre distance, c'est-à-dire garder distance par rapport entre le soigné et le soignant?
Oui, c'est important parce que moi je me répète toujours, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi que je fasse bien mon travail, donc pas que je sois enlisée dans l'émotion ou dans la peine. Je parlerai peut-être plus de prise de hauteur parce que prise de distance, c'est quand même très difficile quand vous êtes si proche de la personne. À moins d'être un robot, je pense qu'on peut pas ne pas être un peu saisi par ce qui se passe sous nos yeux. Et ça prend tout notre être, pas que notre cœur, ça prend notre corps, ça prend notre intelligence. Et maintenant, qu'est-ce que je déploie comme compétence pour bien faire mon travail et donc aller au-delà, en effet, de la peine ou du sentiment.
Parce qu'en tant qu'ergothérapeute, Elisabeth de Courrèges, vous êtes amenée à rééduquer des mains. Donc il vous faut trouver un bon équilibre entre la distance et la proximité. C'est très, très tactile comme métier.
Oui, c'est vrai que ce contact des mains nous lie quelque part d'emblée. Il y a beaucoup de manières d'approcher un petit peu les mains d'un patient. Il y a celui qui va vous les tendre d'emblée parce qu'il aura besoin de vous saluer et de les serrer fort. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal, et plus symboliquement, qui vont toujours rester à distance de vous et qui ont besoin de cette distance et de cette réserve qui est à respecter infiniment. Et pour autant, vous avez besoin de travailler sur leurs mains, donc il faut petit à petit gagner leur confiance pour qu'ils acceptent de vous la confier parce qu'il faut la rééduquer. Donc c'est très intéressant de voir que nous aussi, pour des mêmes gestes, on va essayer de s'adapter à la demande de la personne et d'adapter un petit peu notre regard, nos intentions pour suivre quelque part ce à quoi la personne nous invite, nous appelle. Et l'approche du corps, plus généralement, est assez liée aussi à ce que l'on choisit un petit peu d'en faire. Il y a les mains, mais il y a aussi le regard qu'on pose. Pour quelqu'un qui est en train de livrer entre vos mains son corps, c'est très très précieux de pouvoir sentir ça.
Parlez-nous de ce confinement. Comment a-t-il été vécu par la professionnelle que vous êtes en ergothérapie et puis également par rapport à ces résidents? Vous avez pris cette belle image tout à l'heure que les mains puissent continuer de porter un enfant ou leurs arrière-petits-enfants.
Je dirais quand même le premier mot qui me vient en pensant au confinement pour nous, ça a été quand même plutôt éprouvant, autant sur le plan physique que moral. Physique d'abord parce qu'on a beaucoup manqué de personnel en fait à ce moment-là, donc on était un peu tous faisant fonction d'être soignants, à essayer de nous démener pour pouvoir réaliser les soins nécessaires au quotidien, mais aussi pouvoir faire ce plus parce que les personnes étaient seules, n'avaient plus de visites. Et donc, il fallait qu'on soit aussi présent, parce qu'en fait, quand vous réalisez que vous êtes peut-être le dernier témoin, quand les personnes sont en train de partir, que leurs familles ne peuvent plus venir et que c'est vous qui devez être là, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a personne, ou bien parce que vous devez tenir le téléphone qui permet à la personne de dire au revoir à sa fille avant de mourir. Oui, ça c'était assez éprouvant. Après, de cette réalité difficile a jailli des moments assez merveilleux, à la fois dans la fraternité qu'on a pu avoir entre collègues et ce soutien mutuel, malgré parfois la peur, malgré la fatigue, et puis dans les échanges si particuliers qu'on avait à ce moment-là. Paradoxalement, je dirais que c'est un moment où les patients se sont confiés beaucoup plus et où la notion de temps n'existait plus. Il y avait juste l'importance d'être dans l'instant, d'être le réceptacle de leur confidence, de leurs propos, de ces mots qui avaient une intensité si particulière à ce moment-là. Oui, pour toutes ces minutes si belles au milieu de cette période éprouvante, je dirais quand même que ce fut un beau moment.
Et en préparant cette émission, Elisabeth de Courrèges, vous me parliez de cette confidence que vous aviez reçue de la part d'un résident qui vous dit « je préfère mourir que de continuer à vivre comme ça ».
Oui, tout à fait. Un résident qui était chef d'entreprise, qui a été longtemps en fait chef d'entreprise d'une très grande industrie pharmaceutique, qui a une vie passionnante, qui a voyagé sur tous les continents, qui était extrêmement sportif, qui avait une famille, une grande famille, donc qui a un sentiment d'avoir été toujours très performant et très actif, et qui, à cause d'une maladie, se retrouve dans la perte de contrôle de son corps, de sa vie, dans une baisse de performance, et qui ne pouvait pas se résoudre à se voir baisser, en fait. C'est extrêmement douloureux pour ces personnes. Et il y a un moment où juste être là et écouter est un peu la seule chose qu'on peut faire devant cette grande souffrance. Et pour autant, ce qui était assez touchant chez ce monsieur, c'est qu'il s'est laissé un petit peu dérangé par la vie, en tout cas dérangé par une dame qui régulièrement sonnait, toquait à la porte de sa chambre, parce qu'elle était un petit peu désorientée, et donc elle était persuadée que c'est qu'elle rentrait dans sa chambre à elle. Et lui, au début, était très agacé de ces visites inattendues. Vraiment, du jour au lendemain, il nous a dit « Mais en fait, j'ai réalisé que cette dame, elle avait besoin d'aide et qu'elle avait peut-être besoin de mon aide. » Et ça a été un peu un changement radical de la vision de son quotidien, qui a été de prendre soin de cette dame et puis d'autres personnes de l'étage. Et vous voyez, quand ce monsieur, sa maladie s'est aggravée quelques semaines après, il a été hospitalisé, on lui a dit « voilà, monsieur, ça va bientôt être la fin. Est-ce que vous voulez rentrer chez vous? Est-ce que vous voulez rester à l'hôpital ?» Et il a dit « moi, je veux retourner à l'EHPAD, je veux retourner dans mon village », a-t-il dit, au milieu de ces personnes dont il avait pris soin. Et quelque part, à la fin de sa vie, il avait découvert lentement une nouvelle valeur de vie.
Et ce que vous avez vécu durant ces différents confinements, vous avez souhaité en faire un livre qui a un beau titre, hein, « Être là, une lumière au cœur de la souffrance », paru aux éditions MAM en 2021. C'est apparu pour vous comme une nécessité de l'écrire ?
Oui, c'est une manière pour moi d'aller un peu au bout de mon travail. Quelque part, toutes ces réalités que je touche de mes mains, que je vois, que je contemple, j'ai eu besoin quelque part d'en témoigner pour des personnes qui ne sont pas forcément amenées à vivre cela, parce que je perçois auprès de ces personnes des messages sur la nature humaine et sur les relations humaines dont j'ai vraiment à cœur de parler pour mes amis, pour mon entourage, et puis pas pour tous ceux que cette question un peu interroge, intéresse. Être là, c'est à la fois tout ce qu'on peut faire, ça paraît être si peu, et c'est pourtant le point de départ de tout.
Vous ne voulez pas que l'on vole à nos aînés une période de vie qui est encore un temps du possible.
Oui, tout à fait. Je ne nie pas qu'il y a des personnes qui veulent mourir et qui n'ont plus que la mort comme dernier projet quelque part. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans une souffrance telle que je comprends pleinement ce besoin que ça s'arrête en fait. Et pour autant, je peux vraiment attester, témoigner qu'il y a des personnes qui, même dans les dernières minutes, ont pu vivre une dernière transmission, un dernier pardon, un dernier échange, un dernier regard qui avait du sens et qui quelque part devait être vécu.
Et quelques mots sur l'accompagnement délicat du dernier souffle.
Je ne viens pas regarder comment meurent les hommes, mais je viens contempler la vie dans ce qu'elle a de plus essentiel, alors dépouillée de de ses apparences, dépouillé de ses performances, dépouillé de ses mots, pour que ce soit aussi une vie qui soit dénuée de souffrance.
Donc pas d'acharnement thérapeutique.
Donc pas d'acharnement thérapeutique. La réflexion autour des prises en charge non médicamenteuses, on fait intervenir des psychomotriciennes, des art thérapeutes, des ostéopathes. Et donc il y a une créativité dans les soins palliatifs français qui m'édifiait énormément et qui est à mon avis possible parce qu'il y a cet interdit fondamental de l'euthanasie qui fait qu'on est obligé de chercher des alternatives. Et mon désir le plus profond, c'est qu'un jour, les gens ne demandent plus l'euthanasie parce qu'ils n'en ont plus besoin, parce qu'on sera suffisamment compétent et présent auprès de ces personnes.
Et lorsque nous visitons une personne, soit en EHPAD ou bien dans un hôpital, il faut aussi trouver le bon moment, jusqu'à quand rester et quand partir de cette chambre.
Il faut consentir à ce que les choses ne nous appartiennent pas et nous échappent, en fait, autant les événements que la personne. Elle n'est pas objet de notre contrôle et donc elle est un mystère. C'est une réalité qui nous dépasse toujours et donc il y a un moment où elle échappe à notre contrôle et même à nos traitements. Et puis savoir se retirer aussi parce que parfois ce n'est plus notre place. Voilà, céder la place à la famille, céder la place au dernier, au plus proche et se remettre dans cette place de soignant où bah là, ça, voilà, c'est plus notre place, on la confie.
C'est ce que vous disiez précédemment, Elisabeth de Courrèges, en disant que par rapport au corps médical, vous êtes tous compétents dans différents domaines et il faut accepter d'en parler à un collègue, à une collègue,
oui.
En disant est-ce que tu pourrais visiter tel patient ?
Oui, oui, oui. Et puis c'est, on pourrait être tenté de vouloir tout résoudre par nous-mêmes, mais non, on a aussi nos limites et c'est important de pouvoir aussi en prendre conscience. On a nous-mêmes nos limites parce qu'on n'est pas compétent en tout et puis parce qu'on a aussi des limites dans nos caractères. Et c'est important en fait de pouvoir à ce moment-là vite contacter un collègue pour passer le relais ou se ressaisir si voilà, on sent qu'on a un comportement qui est en train de dévier. Pour le mal qu'on peut commettre ou pour les erreurs que l'on peut faire, il y a celles que l'on fait sciemment, heureusement, je pense, le plus rarement, et puis celles qui viennent parce qu'on n'a pas assez bien fait, pas fait suffisamment le bien quelque part. Là, c'est important aussi d'avoir des collègues qui nous disent ben, là, ça ne te ressemble pas, là, tu commences à ne plus dire bonjour, tu commences à t'agacer. C'est qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, et du coup la présence du corps médical elle aide aussi un peu à se réajuster.
Surtout ne rien fuir, ne rien nier, ne pas détourner son regard, c'est ce que vous écrivez aussi dans votre livre Être là.
Tout à fait, être saisi un petit peu par ces minutes d'éternité qu'on est en train de vivre avec la personne, où la notion de temps quelque part n'existe plus, c'est plus tellement à la trotteuse de la montre que le temps compte, mais avec la respiration parfois un peu saccadée de la personne qui se trouve en face de vous. Il y a une intensité de présence qui peut se dégager dans ces moments qui me donne la conviction que je suis à la bonne place au bon moment, que je dois être nulle part ailleurs.
Et vous écrivez « J'ai compris ce que signifie donner un sens aux derniers instants de la vie. C'est un sens au temps présent. »
Oui, tout à fait. C'est un sens au temps présent et parfois, on se dit le temps doit être quelque chose qui fait grandir, construire, et c'est vrai. Et en même temps, il y a aussi des choses qui sont vécues dans l'instant et qui ne se reproduiront plus après, mais qui ne sont pas moins riches, pas moins féconds, en fait. Ils ne sont pas du tout des moments stériles ou inutiles. Et je crois qu'ils sont marqués avec une forme de, oui, je dirais, d'éternité.
Dans votre livre, vous parlez aussi de votre foi chrétienne, cette foi qui n'évite pas la souffrance.
Non.
Mais à quoi sert-elle cette foi, si elle n'évite pas la souffrance ?
Oui, Paul Claudel disait « Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence ». Et je crois qu'on touche de doigt un petit peu la présence de Dieu dans la souffrance. Enfin, je crois vraiment que la souffrance pour elle-même n'a pas de sens. Vous savez, moi j'ai une grande sœur qui a un handicap et ça a beaucoup joué un petit peu dans la réflexion autour de mon métier. Et puis je me suis longtemps demandé « Voilà, est-ce que c'est parce qu'elle a ce handicap, elle a cette fragilité qu'elle fait qu'elle a un rayonnement si fort, si particulier ? Parce que c'est une sœur qui rayonne autour d'elle et qui est heureuse et affectueuse. Et j'ai compris, mais non, en fait, c'est pas la maladie en elle-même, c'est pas la souffrance, c'est pas sa souffrance en elle-même qui la rend si heureuse, ce serait un petit peu pervers. Mais en revanche, c'est ce qu'elle a décidé d'en faire. Et ce qu'elle en a fait, c'est qu'elle a consenti à ce qu'elle vivait et elle l'a traversé. Elle n'a pas cherché à le nier, elle n'a pas cherché à le repousser. Elle a consenti à ce qu'elle traversait. Et à partir de là, elle a décidé d'avancer, en fait, oui, de traverser ce qu'elle vivait, de continuer à vivre. Et c'est ce qui a fait, je pense, son rayonnement particulier. C'est la souffrance traversée. Et traverser en étant accompagné.
Et pour vous, l'espérance est plus qu'une attente, elle est une présence.
Oui, elle est une présence. Elle est une présence à l'autre, et puis elle est une présence au tout autre qui est Dieu. On n'est pas que nos fragilités, on n'est pas que notre souffrance, on n'est pas que nos maladies. Il y a tellement de choses qui forment notre identité. Donc voilà, y consentir et en même temps les dépasser pour pouvoir continuer à se donner dans la vie.
Elisabeth de Courage, je rappelle que vous êtes ergothérapeute dans un EHPAD et auteur de ce livre paru aux éditions MAM et qui a comme titre « Être là ». Je vous laisse dire le sous-titre.
Une lumière au cœur de la souffrance.
Podcast by Tendance Ouest.